Ok. Et bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être là ce jour. Et puis, je n'hésiterai pas non plus à remercier les organisateurs de cette journée, en particulier Stéphane. Effectivement, il y a un petit peu plus d'un an, à Londres, un 10 juin 2005. Non, ne rougis pas. On était tous les deux à ATmedia, qui est une manifestation sur les standards et l'accessibilité à Londres, qui est aussi une autre occurrence cette année. Et c'est malheureusement que du public anglophone. Et on s'est retrouvés, je pense, les deux seuls Français, enfin, ouais, 4 ou 5, quoi, sur 200. Donc, ce qui rappelle un petit peu la première édition de Paris Web 2006, qui j'espère aura d'autres occurrences aussi. Et c'est vrai qu'en sortant, on s'est dit, en France, il n'y a rien. Et Stéphane m'a dit, bon, si je fais quelque chose, on organise quelque chose, tu serais prêt. Et là, c'était banco tout de suite, à force d'assister à ce genre d'événements de part, on va dire, en Europe, surtout en Angleterre. Là, c'est vrai que la législation pousse un petit peu le marché, et puis la langue anglaise facilite quand même pas mal de choses. Mais c'est vrai que des manifestations comme SXSW aux US ou Web Essential en Australie ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il manquait quelque chose quand même en langue française. Et encore bravo et merci à tous. Bon, moi je m'appelle Jean-Louis Carvès, je fais partie d'un service un peu particulier dans IBM, qui s'appelle le Centre d'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est mon job de tous les jours. Donc tout à l'heure, quand j'entendais parler Tristan de tout ce que le web sert à faire, je pense qu'il a juste oublié un tout petit peu, mais je pense que c'est juste l'emballement. Ça sert aussi à travailler. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai envie. Non, mais c'est ballot, mais j'ai choisi justement l'exemple d'un intranet d'une boîte qui est quand même relativement importante et montrer comment on a pu passer notamment cet outil de travail, cet outil de communication, via les standards et l'accessibilité. Je pense que c'était quelque chose. Je pense qu'il y a encore trop on va dire, d'entités commerciales ou d'entreprises privées qui se disent, bon, c'est pas obligatoire. Moi, j'attends que ça me tombe dessus le jour où peut-être que je. Ouais, je pense que là, ils n'ont pas tout compris. Mais l'idée aujourd'hui, c'était effectivement de vous dire, ben voilà, aujourd'hui ce qu'on a fait et comment on l'a fait, les leçons qu'on a tirées, les bénéfices qu'on a gagnés. Et puis également donner d'autres exemples en fin de discours, la minute publicitaire avant le repas, sur quelques exemples clients avec lesquels on a travaillé, et puis des vrais retours, quoi, des retours financiers quand votre patron vous dit ouais, l'accessibilité c'est bien joli, si c'est pour afficher un logo sur mon truc, moi personnellement tu peux te rhabiller, hein, ça fait joli, mais tu t'en charges. Par contre, montre-moi du retour sur investissement, et puis là on pourra peut-être faire avancer le public. Voilà. Donc, l'intranet d'IBM, il s'appelle On Demand Workplace. Bon, ça, c'est du marketing. W3 V8 W3 parce que c'est simplement toutes nos adresses intranet qui commencent par W3 et V8 tout simplement parce que c'est la 8e version, ce qui veut dire qu'on en a fait 7 avant quand même. Donc, les objectifs de cette nouvelle version. Alors, cette nouvelle version a été faite aussi à l'occasion d'un changement on va dire, de structure et puis d'applicatif aussi, puisqu'on est passé à l'environnement pleinement portail avec les produits Hubsphere que peut-être certains de vous connaissent. Les objectifs de la nouvelle version, en passant, profitant de cette migration d'outils software, c'était effectivement d'améliorer le support des standards et de l'accessibilité, c'est pas tellement une surprise. Améliorer le temps de réponse, parce que c'est vrai que quand on est quand même un certain nombre à travailler dessus et les temps de réponse quand on travaille, c'est quand même important. Également, et ça, je crois que d'autres vont dire avec moi, donc je vais pas trop insister, fournir aux personnes qui naviguent des options de navigation qui ne soient pas forcément les options pour tout le monde. Effectivement, passer du design de la version d'avant à se dégrader gracefully, comme dit le W3C. Et puis aussi faire que la prochaine version, c'est-à-dire les évolutions, soit plus facile à mettre en œuvre. Donc ça, au niveau de la démarche, on s'est mis. Bon, je vous donne un peu le résultat un petit peu global. Qu'est-ce qu'on a pris comme décision? On savait qu'on est parti d'un environnement où on était quand même ont plutôt environnement soupe de tag, même si on avait quand même un certain nombre de, on va dire, de standards d'écriture, mais qui n'étaient pas des standards, on va dire, officiels. Et maintenant, on est passé à un environnement où toutes les pages de l'intranet sont conformes aux recommandations de priorité 1 et 2 de la WCAG 1.0, et également, puisque on est une entreprise globale, à la section 508, qui est l'équivalent de, non pas l'équivalent justement, qui est la norme pour le gouvernement américain. Au niveau de la mise en page, le site utilise pleinement les feuilles de style, même pour le positionnement. Et on a également fait des feuilles de style spécifiques à l'intranet en mettant des ID aux pages, des choses comme ça. Alors comment s'y est pris? Alors, je dirais, il y a la démarche classique et puis celle préconisée. non, mais c'est pas forcément. C'est vrai, il y a du vrai. Mais bon, dans un environnement réel, c'est vrai que bon, je vais pas essayer de me raccrocher à tous les points. Globalement, c'est ça. Après, c'est comment on l'organise. Et ce que je vais essayer de mettre en valeur, c'est quels sont les points qui, je pense, ont été clés dans la réussite de cette démarche. Et on va reparler de choses qu'on a entendues juste avant, de standards, de qualité, et de choses comme ça. Alors, je crois que le gros boulot a été fait par des équipes qui ont été à la fois des équipes de développement, des équipes qui se sont chargées de la partie interface utilisateur et design centré sur l'utilisateur, hein, user-centered design pour ceux qui ont l'habitude de cette démarche. Et puis aussi une collaboration très très active d'un certain nombre d'employés d'IBM qui étaient atteints par tel ou tel handicap et qui sont portés volontaires pour tester un certain nombre de pages. Donc, pour lancer cette opération, d'abord communiquer en interne, je crois que c'était une chose importante. Donc, un site intranet lancé pour l'occasion où on expliquait effectivement le rationnel, pourquoi on y allait. Comment est-ce qu'on allait y aller? On va vous donner les outils pour créer une nouvelle page. On va vous fournir également des outils pour migrer, parce qu'il y avait quand même un passif relativement important. Et quand on voit les problèmes que peuvent avoir des entreprises qui ont déjà un site, qui ont déjà un certain nombre de contenus qui a une certaine valeur, comment on fait pour migrer ce contenu dans un nouveau standard, parce que c'est bien le cas. Et puis, quels sont les je suis responsable d'un site, d'une application intranet, qui peut m'aider, comment je peux tester ma migration, j'ai combien de temps pour le faire, à qui je m'adresse si j'ai des problèmes. Donc ça a été vraiment un gros boulot. Et je pense que là, ce site-là a permis de mettre un petit peu tout le monde dans la dynamique de cette entreprise. Et je pense que ça a aussi servi, non, je suis même sûr, à documenter aussi un site web qui est un site web qui recense tous les standards qu'on peut trouver à l'interne IBM et dont certains concernent l'intranet. Et on va voir avec surprise que quand on liste la page des standards, on va pas trouver l'accessibilité. On va trouver un certain nombre de choses, comme effectivement les standards de conception, c'est-à-dire que la charte graphique, un site intranet, il doit être fichu comme ça, quand on doit fournir de l'aide, elle est sous tel format, et on va trouver les standards d'utilisabilité, enfin usability, je crois qu'il n'y a pas encore de à part utilisabilité en français, je pense que une facilité d'utilisation, les standards, donc dans les standards utilisabilité, on a mis l'accessibilité. Et puis, on a mis également les standards éditoriaux qui font partie de la qualité globale du document, des standards internes qui peuvent être de la sécurité, les aspects légaux, etc. Et puis, bien sûr, les standards techniques. Alors, donc, on les voit un petit peu dans cette copie de la page que j'ai pu faire. Donc, en gros, ça reprend ce que je viens de dire. Donc, en fait, l'accessibilité va se trouver au niveau de l'utilisabilité. Alors, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Alors, il y avait les design standards, voilà. Donc, on va trouver une page où il y a pas mal de choses, notamment sur l'utilisabilité. Mais ben là, c'est pas de bol. J'ai pas pris la bonne page. Alors, peut-être que là, ça va aller mieux. Je pensais qu'on aurait accès. Non. Bon, c'est pas grave. Est-il que, en fait, ce qu'on va trouver là-dedans, il y a une page que je vais vous montrer aussi. Je crois que Tristan est revenu. On va montrer un petit quelque chose. Dans les références sur l'intranet, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit monsieur qu'on retrouve là. Quand vous disiez qu'il était partout, il est même sur l'intranet IBM. Mais si on regarde en fait le site, en fait, on aperçoit que c'est encore sur DevEdge Netscape que le lien pointe. Donc, mais c'est des sites que j'avais. Vous voyez, ils datent de décembre 2003 et je les avais gardés en local. Donc, déjà en 2003, Tristan était déjà sur l'intranet IBM. Petite nouvelle. Donc derrière tous ces standards, ils font partie d'une revue d'assurance qualité. Et là, on revient, je pense qu'on y reviendra encore plus cet après-midi avec l'intervention de l'Islohim sur la partie qualité. Donc là, tous ces standards font partie d'une revue d'assurance qualité. Et avec ça, on a donné un certain nombre d'outils pour le développeur et puis aussi pour d'autres personnes. Pour le développeur, ben, ce sont les validateurs qu'on peut trouver sur le marché. Homepage Reader, puisqu'il a été cité aussi par Stéphane tout à l'heure. JAWS, bien sûr, toutes les pages web qui sortent avant d'être publiées sont testées avec JAWS. Et on l'a vu tout à l'heure, effectivement, même si on respecte tous les standards, même si on est full CSS, même si, il y a encore des bugs de navigateur. Donc c'est vrai qu'avec HPR, on lève un certain nombre de choses, mais le test final, c'est quand même JAWS, puisque c'est le logiciel le plus utilisé chez les non-voyants et certains malvoyants. Et puis également d'autres outils au niveau des développeurs qui permettent de vérifier ces pages avant d'être publiées. Bon, je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent ce logiciel qui s'appelle eDesigner, qui est disponible en téléchargement gratuit sur le site IBM Developer Works, et qui permet d'analyser des pages web sous un certain nombre de critères, avec un rendu de couleur, ce qui est pas forcément très accessible. Mais bon, en fait, les critères qui sont retenus sont la conformité aux standards, en l'occurrence ceux qu'on a choisis pour l'intranet, l'écoutabilité, listenability, c'est pas très joli non plus en français, mais enfin bon, on comprend ce que ça veut dire. Donc c'est quel est le rendu vocal par une synthèse. Donc là également, on va voir ce qu'on a évoqué tout à l'heure, s'il y a les liens interne à la page pour pouvoir naviguer plus facilement. Donc, en fait, ce que ça va faire, ça va donner, par exemple, le temps qu'il faut à une personne pour arriver à la fin de la page. Donc, dès qu'on va dépasser 2 minutes, on sait que, de toute façon, la personne n'ira pas très loin. Donc, en fait, ça va mettre en évidence la présence ou pas de liens internes à la page qui permettent de se repérer avec une navigation qui n'est pas forcément visuelle. Et puis, la navigabilité, ça, on va en parler aussi. Et puis, d'autres standards qui font partie de la qualité globale web. Et donc, on va donner une note. En gros, on va attribuer 100 points à chaque critère. Et à la fin de l'analyse, en fait, chaque page aura un poids en termes de notes. Donc, il sera noté sur 400. Et l'on voit un petit exemple de page, une quinzaine de pages. Et on s'aperçoit qu'il y en a une qui, visiblement, n'est pas conforme parce qu'elle ne doit pas pointer sur la bonne CSS ou autre erreur de ce type-là. Également, ça permet de voir avec le graphique du bas, la cohérence de l'accessibilité des pages, c'est-à-dire que sur un site où j'analyse 200 pages, est-ce que j'en ai 80% qui sont conformes et 20% qui pétouillent, ou j'ai un petit peu de tout partout et ça voudrait dire que peut-être j'ai pas une très très bonne méthodologie pour y arriver, ou j'ai pas encore tout fait, ou j'en suis qu'à une étape basique. Alors les outils pour le développeur c'est bien, mais également il faut quand même donner les moyens aux gens qui sont responsables des sites et des applications, les moyens de peser justement sur l'accessibilité. Donc en fait on a défini sur l'intranet un certain nombre de règles, c'est-à-dire que les pages appartiennent à un domaine applicatif appartient à une business unit, donc un groupe de business unit, je sais pas. Entité d'affaires, oui, ben oui, mais enfin bon, ça cause pas beaucoup non plus. On va dire un grand département, une chose comme ça. Un centre, oui, c'est exact. je pense qu'on peut mieux le un centre de profit. Et donc effectivement, on a, comme on a mis des propriétés, des appartenances, des pages, des applications et des entités d'appartenance, on va dire, les entités business. Effectivement, chaque deux fois par mois, chaque entité reçoit un rapport avec l'état d'accessibilité et la conformité aux standards et d'accessibilité et autres. Donc derrière, là, ça peut être en là, c'est en format CSV, mais derrière, effectivement, comme un séparatif value. Mais derrière, c'est vrai qu'on peut aussi l'intégrer dans des outils de pilotage et des tableaux de bord. Alors, quel outil on utilise? En fait, on utilise un outil maison, où en fait, on s'est là aussi essayé de faire des choses un petit peu qui puissent évoluer. Donc en fait, aujourd'hui on a un moteur qui a été au début basé sur le moteur de Bobby, à l'époque où c'était pas encore Watchfire, certains s'en souviennent, pas il y a si longtemps. On a utilisé le moteur de WebKing, on en utilise d'autres. En fait, l'outil on l'a conçu pour qu'en fait il soit capable d'accueillir le meilleur moteur par rapport à nos contraintes. Donc pour ça on s'est fait une interface Java et on peut mettre derrière n'importe quel moteur. Bon, effectivement les jeux de règles sont configurables, donc c'est la moindre des choses qu'on puisse demander à un outil de surveillance, c'est-à-dire passer de WCAG 1 à WCAG 2, qu'est-ce que ça veut dire en termes de jeux de règles, par exemple. En fait l'étendue de cet audit et puis la profondeur peut être réglée en fait en ajustant la taille des serveurs et du stockage, puisqu'en fait ce qu'on fait, on fait un passage une fois que les pages ont été publiées, et ensuite on récupère ça, on envoie ça sur des serveurs, et en fait ça nous a permis aussi le fait d'avoir, enfin cette problématique d'attribution, attribuer un problème à quelqu'un, ça nous a permis aussi, et j'en parlerai tout à l'heure, une certaine créativité technique pour résoudre des problèmes qui étaient des problèmes et d'accessibilité et de reporting, et comment je fais pour peser sur une organisation pour qu'elle se mette au standard. Effectivement, bon, derrière on garde un historique avec la possibilité de sortir des rapports dans tous les sens. Bon, l'architecture de la solution, c'est pas bon, en fait on a mis un certain nombre d'une infrastructure qui supporte en fait cet outil d'analyse. Et donc, qui permet ensuite à chaque entité d'aller chercher ses billes avant de se faire taper sur les doigts, puisqu'en général, s'ils n'ont pas corrigé les erreurs dans les X jours qui suivent, ou s'ils n'ont pas présenté un plan d'action pour y arriver, en général, ils sont tapés sur les doigts. Mais je pense que, de toute façon, la carotte dans le milieu de l'entreprise, je ne crois pas vraiment. Donc là, c'est plutôt le bâton, hein, puisqu'il y a deux manières de faire avancer les ânes. Et donc, bon. Mais c'est vrai que ça, il y a des choses qui passent avant. Ah, complètement. Non, on est dans le domaine effectivement de l'entreprise et j'y viendrai tout à l'heure sur les exemples. Là, c'est clairement montrez-moi que ça me rapporte. Hein. Sinon, c'est et puis si j'ai d'autres objectifs à côté et qui sont pas prioritaires, et ben naturellement, je les mets pas plus haut dans ma liste d'affaires à faire. Hein. Donc, on va dire c'est bêtement humain. C'est pour ça que bon, tout ce qu'on a pu donner en étant gentil avec tout ce qu'on a pu donner comme ressources pour que les gens comprennent où est-ce qu'on allait, comprennent comment on y va, comprennent qui peut les aider, comment on peut le tester, etc. À un moment dire, bon, maintenant, on vous a tout donné, on vous a mâché le boulot, maintenant, il faut continuer. C'est-à-dire faire que ce qu'on a mis en place, ça reste, et ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire que derrière, il faut prévoir un processus de surveillance et voire même de sanctions à l'intérieur de l'entreprise quand ça va pas. Ce qu'on fait aussi, et on l'a montré tout à l'heure qui est important, c'est des enquêtes de satisfaction. Ça, c'est arrivé dans ma boîte mail hier soir. C'est-à-dire que régulièrement, on va se dire, bon, des enquêtes, on va dire, de satisfaction d'utilisation normale, enfin, standard, on va dire, comme n'importe quel webmestre ou gestionnaire d'intranet doit le faire pour s'occuper de la satisfaction de ses clients. Et puis, de temps en temps, on se dit, mais est-ce qu'on fait assez, ou est-ce qu'on fait ce qu'il faut, Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour améliorer la situation de gens qui n'ont pas les habitudes de tout le monde, qui dans leur diversité, on va dire physique, physiologique, culturelle, que sais-je, ont besoin de choses particulières. Donc en général, on fait ce genre d'enquête où on va demander, sur la base du volontariat, à des gens qui rencontrent une certaine problématique sur l'intranet, de répondre à une enquête, et derrière, effectivement, il y a un suivi. Donc, je dirais, on est tout à fait dans une démarche de qualité, en allant un petit peu plus loin, dire, les standards, tout, c'est bien, on teste avec JAWS et autres outils, est-ce que c'est encore assez? Au cas où j'aurais des particularités, je vais quand même m'adresser à ces personnes pour leur dire, bon, alors il y a des gueulards dans toutes les structures, hein. Donc il y en a qui systématiquement disent ça ne va pas, ou etc. Mais bon, je pense qu'on a réussi à améliorer un certain nombre de choses grâce à ces enquêtes. On parlait des liens d'évitement ou de choses comme ça. On a fait d'autres petites choses qui sont assez intéressantes. Enfin, juste pendant que tu es encore là, dans les statistiques, on regarde aussi les browsers. Et, comme j'ai entendu tout à l'heure, ça me paraissait un petit peu bizarre que, enfin pour moi, mais je veux dire, Firefox ou Mozilla dans la maison, ça fait partie des navigateurs autorisés depuis belle lurette, et aujourd'hui on est malencontreusement au niveau global sur l'intranet qu'à 15%. Alors pour, on va dire, pondérer un petit peu ce chiffre, il y a encore des applications qui fonctionnent uniquement sous IE. On est en train d'y travailler. Donc, ce qui fait peut-être que certaines personnes ne passent pas à Firefox à cause de ces avantages, parce qu'il y a encore un certain passif, mais en général, les prochaines applications, dans les critères de qualité, il y a aussi la compatibilité cross-browser, même pour les applications qui peuvent être, je sais pas, la gestion des notes de frais, gestion des choses comme ça, qui sont en général, on va dire, enfin, chez nous, plutôt des applications Java avec une interface web, mais ça ne leur empêche pas de devoir être accessible par tous les clients, y compris les navigateurs. Donc, on va parler un petit peu des résultats et des bénéfices que ça a eu pour nous. Alors, voilà une page de portail typique, hein, de l'intranet. Donc, en fait, chaque pavé est un, ce qu'on appelle un portlet, hein. Ça, c'est parfait, on va traduire un portillon. Okay. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, on a eu une vraie problématique d'accessibilité puisque chacun, à la limite, comme c'est un portail, on se signe, on s'identifie par rapport à un profil. Et par rapport à ce profil, plus un certain nombre de personnalisations, en fait, les portlets qui vont être les miens vont pas être celui de mon voisin, ni celui de l'entité d'à côté. Donc, ça nous posait un petit problème pour arriver à créer, par exemple, de la navigation non visuelle, alors qu'on sait pas à l'avance ce qu'il va y avoir dans la page. Donc là, je dirais, on s'est été, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire? Et en fait, une solution qu'on a trouvée, qui est, les pages sont dynamiques. Donc en fait, ce qu'on a mis en tête de page, à part le lien qui permet d'éviter la navigation, en fait, un autre lien qui va pointer sur le bas de la page, où on va, après affichage des différents portlets, mettre les liens sur les titres de chaque portlet. Donc en fait, le menu d'accès aux différentes parties du portail est généré en même temps que, enfin, à la suite de la publication des différents portlets. Donc, et ça, apparemment, ça a été quelque chose qui a aidé beaucoup de personnes à mieux naviguer, parce que un portlet, ça peut être assez important. On a fait pas mal d'efforts aussi sur la navigation à l'intérieur des portlets et sur l'accessibilité, bien sûr. Oui, comme je disais, effectivement, on peut personnaliser son interface, donc toujours pareil. Même si c'est là, a priori, tous les gens de mon entité devraient être intéressés par tel ou tel domaine. Bon, mais moi, j'ai peut-être un intérêt particulier qui fait que j'ai besoin de rajouter ce portrait-là pour mes besoins. Pour moi, ça fait partie aussi de l'accessibilité. Donc, en fait, ça a conduit à un certain nombre de mises à jour visuelles et techniques. Bon, alors, ça, c'est des arguments qu'on va retrouver partout chez tous ceux qui vont parler d'accessibilité. L'enrichir l'expérience utilisateur, on verra des exemples tout à l'heure. Diminuer les coûts de production, ben, je vous donnerai quelques petits chiffres. Diminuer les coûts opérationnels, ben là, dès qu'on va parler de... Merci Stéphane. Donc, diminuer les coûts opérationnels, dès qu'on va parler de stockage, de bandes passantes, de choses comme ça, ça va être assez clair. Augmenter la valeur du contenu, ben, ça, je pourrais vous montrer on va parler de l'aspect sémantique. Effectivement, une petite chose qu'on avait, je vais peut-être montrer après, je sais plus. Établir une compatibilité ascendante, ben, c'est-à-dire que, effectivement, c'est pas mon intranet, c'est pas un coût, hein. Un coût COIP, hein. C'est quelque chose qui va me servir à évoluer, à capitaliser. Donc, si je me base sur des standards ouverts, et ben d'ailleurs, je m'assure que tout ce que j'ai préparé en mode standard va suivre mon évolution. Et on va voir aussi que ça a permis le développement, alors que sur des pages de l'intranet, on était relativement pauvre en outils de collaboration. Là, c'était la floraison de blogs, de wikis, de choses comme ça, mais qui ont flambé sur des plateformes qui étaient standards, alors que peut-être, probablement même, on aurait eu on serait resté sur notre ancienne structure, ça aurait présenté un tel travail de mettre ça en place que vraisemblablement, on n'aurait pas mis cette facilité, et cette facilité, c'est de la collaboration, c'est de la productivité, donc on n'a pas le droit de s'en priver non plus. Bon, meilleure expérience utilisateur, on va répéter les choses qui pour moi sont évidentes, mais il faut toujours que je les répète parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas convaincus. Donc, les pages se chargent plus vite, et ça, séparation du contenu et de la présentation. Utilisabilité et accessibilité sont améliorées. On n'en a pas parlé, mais les pages s'impriment facilement dès qu'on a fait une feuille de style pour l'impression. Et en termes de productivité dont je parlais tout à l'heure, donc, 2 mois après le lancement du nouveau design, 1/4 des utilisateurs ont déclaré avoir gagné en productivité entre 15 minutes et plus d'1 heure par semaine, simplement avec le nouveau design. C'est quand même pas mal. Bon, diminution de production, ça c'est pareil, on l'a dit tout à l'heure, hein. Page plus facile à construire, je mélange pas ma soupe de tag, ma présentation avec le contenu de ma page. Et puis aussi, un élément qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la portabilité du développement à travers les différentes équipes. L'équipe qui aujourd'hui développe l'application est peut-être pas la même qui celle demain va la reprendre. Et remettez le nez dans une application par quelqu'un qui a été développé par quelqu'un d'autre que votre équipe, qui n'a pas les mêmes méthodes, qui n'a pas les mêmes standards, et c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Diminution des coûts opérationnels, bon, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, un gain moyen de 20 à 25%, ça c'est au minimum au niveau du poids des pages. Quand on a 3,5 millions de pages vues par jour, et dont 1 million, à peu près, presque 1 million pour la page d'accueil, ça veut dire que quelque part ça représente un petit peu de sous. Bon, on a vu qu'en gros 8 employés sur 10 consultent l'intranet au moins 1 fois par jour. Et si on rapproche ça en fait du coût de l'infrastructure réseau qui était la nôtre au moment de ça, comme 43% du budget si on l'impacte, même si on le réduit que de 10, 20, 30%, c'est pareil, c'est pas complètement neutre. Bon, là, je vais passer, le poids des pages, j'avais juste 2-3 illustrations. Vous savez qu'on est passé d'une structure en tableau à une structure qui ne l'est pas. Et en termes de poids des pages, bon, hormis tout ce qu'on a pu dire, bon, là, c'est 51%, mais bon. Également augmenter la valeur du contenu. Bon, c'est vrai que les auteurs ont plus à se préoccuper. Puisqu'en fait, on leur a fourni des templates, des modèles, des choses comme ça. Donc, ils ont plus. Et doucement. Ah oui, ça n'arrive plus à signer. Pardon. Pardon, je m'emballe. Une petite camomille, peut-être, oui. Bon, réutilisation du contenu, c'est des choses aussi qu'on a dit, réutilisable pour d'autres usages. Évidemment, les outils de recherche, en tant qu'utilisateur, bah, plutôt assidu de l'intranet, c'est vrai que la rapidité et la performance des outils de recherche, ça a été vraiment le jour et la nuit. Puis là, je m'étais amusé à faire prendre une page qui était dans l'ancien modèle et dans le nouveau modèle, et dessus, j'ai appliqué juste une petite feuille de style dans laquelle j'ai mis que les éléments qui avaient un poids sémantique, hein, tous les H, les P, les LI, les Q, j'en parle, j'en passe les meilleurs. Et donc, entre la page qui est en haut, où on voit qu'effectivement, bon, là, il y avait une liste, coup de bol, elle était programmée comme une liste, et en bas, où effectivement, je vais avoir tout mon contenu qui a un poids sémantique, comme disait Carl. Voilà. Pour préparer la voie pour l'avenir, je pense que effectivement, le design depuis, ça c'est une chose qu'on a fait en 2004, donc on a un petit recul dessus. C'est vrai que depuis 2004, le look and feel et le contenu de notre page a changé. On a fait un certain nombre d'aménagements cosmétiques, on ne les a pas vu passer, hein, certains s'en sont même pas aperçus. Mais c'est vrai que quand on a mis en place de nouvelles applications juste comme ça, on l'a fait avec une vraie flexibilité, une vraie facilité. Et donc ça, c'est aussi un point. Et puis je ne parle même pas de l'entrée en force d'XML, la facilité avec laquelle on va pouvoir, on a déjà commencé d'ailleurs, à l'introduire sur nos sites. Moins couramment cité comme avantage, je dirais la créativité technique des équipes dans la recherche du meilleur compromis, chose que j'ai pas beaucoup entendue, mais effectivement c'est pas juste des standards, c'est aussi des hommes et des réactions en face. Et puis ça peut être des contraintes techniques, des contraintes fonctionnelles. Donc effectivement, l'accessibilité, ça va être trouver le meilleur compromis entre tous ces éléments-là. Et c'est vrai que là, on a eu une véritable créativité entre les différentes équipes pour trouver la meilleure solution pour certaines problématiques. Et ça, je crois que ça a réveillé un petit peu des initiatives, de l'innovation, des choses comme ça. Et c'était assez excitant. C'est vrai qu'aussi dans les relations entre groupes, quand on part avec un objectif comme celui qui était le nôtre, et bien en gros faire adhérer les gens une fois qu'ils ont compris l'intérêt et les faire travailler ensemble, ça a été vraiment. Je crois même qu'il y a des conflits qui potentiellement avec certaines équipes étaient latents. De par l'objectif et la façon dont on les a fait travailler ensemble, ils ont su travailler ensemble pour un meilleur. Et donc je dirais en conclusion, c'est aussi un projet qui est fédérateur d'énergie. En plus de pouvoir lever certaines ambiguïtés ou rivalités entre des groupes de travail dans les entreprises. Bon, là c'est la minute pub, donc il me reste 10 minutes. Oh, c'est bon. J'ai pas l'habitude de la main gauche, mais la main gauche. Donc là, en fait, j'ai trois petits clips que j'ai volontairement cisaillés pour prendre a priori que la partie témoignage client. Un qui est un client. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai le foutu étranger. Un qui est un client public. Donc lui, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il y aille. Qui est le Sénat italien. Donc je vais vous passer un témoignage sur ce client et qu'est-ce qu'il dit de la démarche qu'il a pu entreprendre.
An innovative, accessible website at the Italian Senate helps deliver value to a broader audience of citizens and employees with dynamic information flowing from Senate chambers.
8 years after the first Senate website in 1996, the administration needs to create a new website based on more information, on a new navigation system and very open and very user-friendly, so every citizen can reach the information he needs, and more accessible also to persons with disabilities.
The real challenge was to redesign completely the information flow because the previous website was totally not accessible.
But with the support of IBM, we get the desired results. We create an infrastructure that is very easy to navigate, it is very easy for all the citizens and above all for persons with disabilities to find information.
The Senate website is implemented on a Linux platform, and application and tools follow open standards. That's follow the idea, the concept of a transparent public administration.
The citizens reacted positively. They can reach information, and also the person with disabilities can reach what they need, and the site is more accessible. We experienced 25% growth in hits in the months after the launch of the new website. And also we experienced less impact on the administration of the website. IBM provided us a methodology, software, and other solutions, so we can reach now the best level available of accessibility.
Alors, au-delà de l'aspect purement IBM, je crois que les bénéfices, là, ils ont été pour un service public, c'est déjà de se rendre accessible à plus de monde, et au maximum. Une audience qui a grimpé de 25%, et là, c'est bon, je vais plus tenir. Et donc la maintenance du site qui a diminué. Deuxième exemple sur une entreprise qui est à la fois public mais qui va bientôt passer privé.
Deutsche Bahn.
Voilà, donc c'est les chemins de fer allemands.
The company that manages the German railway system has successfully implemented an innovative, accessible.
C'est les mêmes, hein. Vous l'avez reconnu? J'étais sûr que ça vous échapperait pas. Vous avez plus le son, c'est ça? Oui, mais sans le son, c'est pas plus mal.
Il y a quand même quelques anglophones dans la salle. With the usage of multiple content management systems. Our customers' reactions were consistently positive. They sent emails telling us the clarity of the website improved significantly. They can find information they need easier and faster.
Deutsche Bahn as a company faces strong competition, and their intention is to go public soon. With this solution, they create a distinct competitive advantage.
In dem Projekt haben wir zusammen mit IBM das Ergebnis erreicht, dass wir.
This project, we achieved with IBM many results. We reduced the running cost by millions of euro over some years. Now the Deutsche Bahn image is being communicated consistently across all websites. We achieved a shorter time to market, and we ensure the websites of Deutsche Bahn are accessible. To fulfill the requirements for accessibility, it was very important for Deutsche Bahn to know that we cannot do this alone. We needed a strong partner like IBM,
who has many years, if not decades,
of experience developing accessibility websites.
Okay, vous avez compris le message. C'est pas la peine de le repasser. Non. La même personne, il est bien. Il est bien cet acteur. Il te plaît, hein? Ça m'étonne pas. Bon, le dernier exemple, bon là, j'ai pas à revenir sur les avantages. Vous les avez lus comme moi. Le dernier, c'est quand même il y en a encore peu. C'est un site de e-commerce. Et pour changer un peu, on a été le chercher au Japon. Pourquoi pas?
Mitsukoshi Department Store recognizes a growing accessibility market and now deploys an accessible e-commerce website.
Our company policy demands that customers in front of us are our masters. So when I learned about visually impaired people using the internet, I thought it was our duty to react.
Our solution included developing an accessibility guideline, conducting a website assessment, and redesigning their e-commerce website. Homepage Reader helps the visually impaired by synthesized speech in pursuing product information in detail. The more buyers understand product details, the greater likelihood for purchasing. Mitsukoshi chose easy web browsing because once customers download it, they can easily enlarge text and have it read aloud by simply pointing.
Ça, c'est une technologie IBM qui a été développée par le lab de Tokyo.
And for older people and visually impaired, where color scheme is very important, they can select desired color combinations.
One of our achievements was, although it wasn't everything, the sales. Sales upturned by 45% from the previous year. Also, we started to hear from the visually impaired people who previously seldom gave us feedback. The site was nominated for user-friendly for the middle-aged and elderly in Sarai magazine, and also won a prize as Best Shop System Award 2005, held by the Japan Shop Online Foundation.
Bon, j'arrête là. Là, encore une fois, c'est un site d'e-commerce. Alors, bon, quelle était la part de l'accessibilité et des standards dans cette augmentation de 45%? Je serais bien incapable de vous le dire. Par contre, c'est un constat. Également, la population des seniors au Japon, c'est le pays qui a la population... Une minute, c'est bon, je termine. Qui a le pourcentage de population au-delà de 65 ans le plus élevé. Donc, effectivement, c'est important. Ce qui n'empêche pas également de travailler, et ça n'empêche rien, sur la partie design du site. Hein, l'accessibilité, c'est pas forcément un site moche, c'est un site utilisable, qu'on l'a vu tout à l'heure, utilisé, facile à utiliser et aussi accessible. Voilà, bon, j'espère avoir, au travers de mon discours, témoignage purement IBM et des exemples clients, vous en montrer que ça, c'est pas juste, je dirais vulgairement, du flan. Hein, si des entreprises s'y mettent, et on voit de plus en plus d'entreprises privées s'y mettre, et en général pas des petits comme des beaucoup plus gros, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Et si ces témoignages ont contribué à vous convaincre de la chose, ben, je pense que je n'aurais pas perdu ma journée. Merci à tous. Et je suis ouvert, bien sûr, pour les questions.
Merci Jean-Louis. Des questions là-bas.
Bonjour, Jacques Pira, Pira.net. J'ai vu, d'après les copies d'écran de A-Designer, que c'est une nouvelle version.
Est-ce qu'il y a... Non, c'est pas une nouvelle version. Ça, c'est une version... c'est pas tout à fait la version qui existe en téléchargement gratuit. Celle-là, c'est une version interne.
Avec une clé USB, vous nous la filez?
Non, aujourd'hui, c'est... aujourd'hui, on peut acheter cette licence sur Internet, également sur le site DeveloperWorks, mais je pense qu'une deuxième est en préparation, et je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'elle va sortir. Mais c'est vrai qu'elle a pas mal d'autres fonctionnalités. Mais bon, il y a quand même du gratuit.
Et elle fait le café.
Bon, vous avez tous faim.
Une question triste.
C'est plutôt pour répondre à la remarque que tu as fait tout à l'heure sur le fait que chez IBM, il y a encore 85% des gens qui sont sur Internet Explorer. C'est parce qu'effectivement, il y a des applications existantes qui n'ont été créées que pour Internet Explorer. Et c'est logique. Je voudrais juste répondre par une boutade à ta remarque. Enfin, une boutade, c'est plutôt une devinette. Vous savez pourquoi Dieu a fait le monde en 7 jours? C'est parce qu'il n'y avait pas de reprise de l'existant. Et là, on est dans une reprise de l'existant qui est toutes ces anciennes applications développées avec les mauvaises habitudes, etc. Ce qui est intéressant de dire, c'est que si jamais il y a, je ne sais pas, si Mozilla un jour arrête de faire des navigateurs, si Opera se met soudainement à avoir 45% de part de marché, au moins toutes les applications qu'on aura développées en respectant les standards seront compatibles avec les nouveaux navigateurs. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est que cette bêtise qu'on a fait dans le passé de faire des applications spécifiques à un navigateur, parce qu'à l'époque, on n'avait pas compris l'importance des standards, je pense que c'est une leçon qui est apprise par IBM et qu'ils vont pas se mettre à faire des applications qui ne fonctionnent que dans Firefox et Internet Explorer. Ils vont faire des applications qui tournent en respectant les standards et qui donc vont être compatibles avec tous les navigateurs modernes.
Je confirme.
Carl Dubos. Donc, je voulais revenir sur un des slides de la présentation qui est le IBM Web Standards Shaker.
Ouais.
Est-ce qu'il est disponible?
Non, aujourd'hui c'est un outil.
C'est un outil interne, donc je pense qu'il y aurait un gros bénéfice à le rendre disponible. Par rapport à ça, je veux faire une petite mention d'un outil qui est pas tout à fait exactement la même chose, mais qui existe au sein du W3C, qui a été développé par Olivier Thérault, qui s'appelle le Log Validator, qui permet justement d'instaurer un processus de vérification des standards. Et là, c'est un point. Un site web, c'est pas seulement faire le site web et le réaliser, le sortir en production. C'est également installer dans l'entreprise où il est installé, dans la structure où il est. C'est d'installer un processus de qualité de façon à vérifier qu'il y a une maintenance de la qualité des pages qui ont été conçues. Et ça, c'est très, très important. Et c'est quelque chose qui est très social, qui doit tenir en compte la structure de l'entreprise, qui doit tenir en compte les gens qui y travaillent. Le coup de la carotte et du bâton, en effet, il y a plusieurs stratégies en fonction de...
Il y a beaucoup de pédagogie voilà, aussi. Ça. Hein. Manger.
Oui, j'ai une question. Bonjour, j'ai une question un peu générale.
Merci de vous présenter,
Oui, Guillaume Gozlan, je suis en charge de sites bancaires, anciennement Banque Directe, aujourd'hui AXA Bank. J'ai une question un peu générale, parce que je ne suis pas un spécialiste de la structuration de documents, de la conception, de la validation de documents.
Moi non plus.
Ma question, c'est qu'aujourd'hui, je vois des entreprises qui se posent bien sûr beaucoup de questions et qui font des choix parfois différents. Elles peuvent choisir de faire un site dédié, accessible, et elles peuvent choisir de faire leur site métier...
Il fallait que cette question arrive, de toute façon.
Bon, elles peuvent choisir de faire leur site métier central, accessible. Et en même temps, en termes de coût d'organisation et de rôle, c'est pas pareil. J'ai le même schéma, je vois pareil maintenant, sur les emailings. Maintenant, pour des raisons de sécurité, de phishing, on craint, et donc on a tendance maintenant, dès maintenant, à faire des emails totalement en image, sans lien. Et donc, je vois cette tendance. Alors, je suis pas encore, j'ai pas fait de choix, et nous, on n'a pas encore fait de choix clair. Mais je vois, sur tous les sujets, cette tendance qui est, allons-nous vers un système accessible, et donc, par exemple, on fera pas d'emailing, ou alors on fera des emailings avec des liens, mais je sais pas comment. Il y a ces deux choix. C'est pareil pour un intranet, hein, on peut se poser la question. Fait-on un intranet pour tout le monde, en flash, super, etc., et un intranet différent?
C'est alors, surtout un intranet efficace, avant qu'il soit en flash.
Donc c'est une question un peu générale.
Si flash peut apporter. Non, mais je crois que là, enfin, tout le monde, enfin, tous ceux qui travaillent sur les standards sont d'accord, et également les personnes handicapées, c'est faire un site dédié pour ceux qui ne peuvent pas avoir flash, c'est ghettoiser les personnes. Et puis, je dirais, c'est pas l'essence de l'accessibilité, c'est vraiment à travers d'un modèle unique, pouvoir le diriger sur X, Y personnes, sur X, Y navigateur dans telle ou telle configuration. C'est vraiment c'est l'économie de moyens. Hein. Donc, faire deux sites, c'est un double coût, c'est un double maintenant, c'est une double... Enfin... On n'entend plus.
Attendez, un micro arrive.
Il y en a qui l'ont fait, cette démarche, hein, et même des sites de commerce. Hein.
Ah, est-ce que vous croyez en un avenir où l'utilisateur choisira d'avoir une interface totalement accessible ou il choisira de ne pas avoir une interface totalement accessible? C'est une question.
J'espère bien qu'il pourra le faire. Le but du jeu, c'est quand même de fournir à l'utilisateur l'interface qui lui convient. Enfin, si je m'adresse à un client, d'accord, qu'il soit interne ou externe, c'est qu'il puisse personnaliser son expérience de navigation au travers de ses besoins. C'est du marketing ciblé. Moi, j'ai telle caractéristique. Si j'ai besoin de voir votre site sur fond noir, si vous me l'empêchez, ben je ne vais pas voir votre site. Ou alors, si, par exemple, vous mettez un système d'identification ou de validation de mon compte client, bon, ça va, il sait.
Juste une petite remarque. Vous parliez choisir entre un site accessible ou non accessible. Pourquoi quelqu'un voudrait avoir quelque chose de non accessible? C'est l'accessible qui devrait être accessible à tout le monde, y compris à vous qui vous considérez comme normal, si je peux dire entre guillemets, puisque le terme n'est pas bon. Il n'y a pas de choix à avoir. Accessible, c'est pas négatif.
Ouais, l'utilisateur standard, il n'existe pas. Quoi. C'est pour ça qu'on a fait les standards.
Alors évidemment, je sais que la question au niveau bancaire, c'est en particulier les claviers virtuels. Ben là, je crois qu'on ne vous donnera pas de réponse aujourd'hui. On n'est qu'au début de l'histoire.
Mais il y a des solutions.
Il y a encore une question. Et puis après, ce sera la dernière.
Juste une par rapport à cette idée de choix d'accessibilité. Mais
rapprochez le micro, s'il vous plaît. Et présentez-vous, s'il vous plaît.
La question que je me pose un petit peu par rapport à tout ça, c'est où est-ce qu'on va? Parce que on est technologiquement poussé à utiliser des outils, des applications. Je parle d'Ajax, hein, que, dont pas mal de gens connaissent ce terme, on est poussé vers des choses qui ne sont pas accessibles parce qu'on a des fonctionnalités supplémentaires, des nouvelles fonctionnalités qui sont poussées par les utilisateurs parce que l'utilisateur a toujours besoin d'avancer, d'avoir des nouvelles interfaces, des nouveaux outils. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer vers le bas avec cette notion d'accessibilité? Moi, j'aimerais bien avoir cette réponse parce que je vois l'évolution technologique et l'évolution des mentalités de l'utilisateur lambda, c'est-à-dire voyant, entendant, etc. Et ce qu'on nous demande de l'accessibilité et des standards, je comprends pas bien.
Alors, un élément de réponse, en informatique, il y a quelque chose de très important qu'on appelle le fallback, d'une façon générale, par exemple, dans les bases de données, ça s'appelle rollback, enfin, etc. L'idée, c'est que si vous développez une interface entièrement en Ajax, vous espérez qu'il y aura jamais d'erreur de JavaScript, jamais de problème. Le fait que vous prévoyez que votre Ajax risque en cours de route de ne pas fonctionner et que vous fassiez en sorte de le prévoir, par exemple, je sais pas, mettons que j'ai un bloc qui s'appelle mes contacts pour le faire à la Gmail et que ce bloc arrive après coup. Si ce bloc-là, vous avez prévu au départ un lien vers la liste de mes contacts qui est de toute façon une fonctionnalité que vous avez développée sur le serveur et qui a sa propre page, si jamais l'Ajax ne fonctionne pas, la fonctionnalité pour moi est accessible parce que je peux y accéder, je peux l'utiliser. Maintenant, si vous ajaxifiez ce bloc, vous faites en sorte que je ne puisse pas nativement aller sur cette page de contact, là vous avez fait le sexy, sous réserve qu'il tienne debout, mais en tout cas, vous n'avez pas fait de l'accessible. Vous pouvez faire quelque chose qui bouge, qui est en Ajax, qui se remplit au fur et à mesure. Prévoyez juste, comme vous le faites d'une façon générale en JavaScript, qu'est-ce qui se passe si j'ai une erreur? L'accessibilité au sens large, ça n'est plus ni moins que ça. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas JavaScript? Très bien, 95% des gens vont l'avoir, pourquoi pas. Enfin, on a des stats qui sont un peu plus basses, mais qui prennent les moteurs de recherche en compte. L'idée, au final, c'est... Et si, d'un seul coup, mon Ajax coincé, pourquoi pas Internet Explorer sur un intranet d'entreprise, on bloque le JavaScript qui vient d'Internet. On n'est pas loin du compte dans certaines entreprises. Vous allez faire du sexy et pour tous ces utilisateurs-là, ils ne pourront même pas voir leur contact. Donc vous voyez, on n'est pas en train de descendre, on est juste en train de prévoir qu'en plus du frein à pied, j'ai un frein à main. C'est juste ça l'accessibilité à la base.
Je voulais réagir sur une partie de la remarque. Qui était de dire les utilisateurs demandent plus. Je pense que Wikipédia, enfin, l'exemple qui a été donné, donc je me représente en Delphine Mellard, Wikimedia. L'exemple qui a été donné tout à l'heure sur Wikipédia était très intéressant à cet effet. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qui se pose à nous aujourd'hui, c'est de dire les utilisateurs, ceux qui utilisent le site très très régulièrement, ont besoin de choses. Ils disent il faut aller plus vite pour faire ci, pour faire ça, etc. Et du coup, on passe à une surcouche en fait d'utilisateurs qui est une toute petite minorité pour lesquelles on développe des applications, des petits machins en plus, des petits hacks par-ci par-là, et on oublie les choses les plus importantes. Jusqu'à il y a 2 ou 3 mois, le logiciel MediaWiki, par rapport au trafic que Wikipédia reçoit, était absolument pas optimisé. Sans même parler d'accessibilité. Et ça coûtait de l'argent, du temps, etc., etc. Donc c'est pour dire que on dit les utilisateurs veulent. Je pense qu'aussi les développeurs, les gens qui font le web, s'amusent aussi pas mal et ont envie de dire tiens j'ai envie de faire un truc en Flash, c'est super classe, c'est super cool. Et je pense que quelque part il faut aussi dire le problème c'est qu'en répondant à une toute petite frange des utilisateurs qui est quelque part on va dire sur la chaîne un peu plus loin, on oublie tout plein de gens en route, quoi.
J'ai un camarade qui m'a donné une statistique de site grand public. 50% des gens qui l'utilisent, je vous dirai pas lequel, sont en RTC encore. 50% de ces gens, Ajax. Voilà. 50%. Non, mais je sais que c'est, voilà. Je dis juste que moi, je suis personnellement pour Ajax, pour Flash, qui sont même propriétaires ou pas, peu importe, qui sont des choses qui font avancer le web et qui le rendent dynamique, d'accord? Mais il faut juste prévoir que ça peut tomber. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait le plus gros travail d'accessibilité, et je crois que malheureusement, on est à peu près au bout du temps. Allez, on a le temps pour une dernière question. Ou alors, on la réserve pour la table ronde, ce que je vous propose, parce qu'on prendra le temps d'en discuter peut-être plus avant. D'accord.
Oui, donc David Attafi, membre OpenWeb. En fait, ce qu'on dit toujours, et c'est vrai, l'accessibilité, c'est les handicapés, mais l'accessibilité, c'est pas que les handicapés, c'est également un tas d'autres choses. Hier, justement, je lisais un article de Laurent Denis sur les médias Speech Euro et sur les ordinateurs multimodaux, et je crois que IBM est là-dessus. et donner cet exemple très simple, c'est votre voiture, vous allez utiliser votre clavier, votre écran dans votre voiture. Non, vous allez utiliser d'autres méthodes. Et là, si dès le départ, l'accessibilité, qui est donc beaucoup plus large que l'handicap, a été prise en compte, c'est beaucoup plus simple à mettre en place.
Merci. Pour conclure, on fait de l'Ajax et on essaie de le faire accessible parce que de toute façon, les décideurs veulent de l'Ajax, les développeurs aussi, et que c'est une bonne chose d'une certaine manière pour les interfaces. Donc on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas en faire, on dit qu'il faut prévoir un certain nombre de cas où ça ne fonctionnera pas. Je vous propose qu'on en reparle un peu plus longuement cet après-midi, pourquoi pas en table ronde. Quelques petites choses avant que vous partiez. Première chose, les gens qui ne sont là qu'aujourd'hui et qui ont besoin d'attestation de présence,